Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous propose comme prière de prendre le texte du Veni Creator. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur, tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos lèvres pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils et toi l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Voilà donc le dernier entretien de cette année sur les sept dons du Saint-Esprit. Sans doute vous allez réentendre des choses que vous avez entendues dans des entretiens précédents, peut-être sous une autre forme. Car finalement, entre les vertus théologales et cardinales, la vie dans l'esprit, les dons de l'esprit, nous retombons toujours sur le fait que Dieu veut donner en abondance aux hommes, qu'il ne se lasse pas de donner, et qu'il donnera tant que tous les hommes n'auront pas tout reçu. Et donc on tourne toujours autour du même thème. Le catéchisme de l'Église catholique explique l'articulation de ce que nous avons dit. Donc c'est un peu un résumé. La très sainte Trinité donne aux baptisés la grâce sanctifiante, la grâce de la justification, qui, premièrement, le rend capable de croire en Dieu, d'espérer en lui et de l'aimer par les vertus théologales, lui donne de pouvoir agir, vivre et agir sous la motion de l'Esprit Saint par les dons du Saint-Esprit, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, lui permet de croître dans le bien par les vertus morales. Ainsi, tout l'organisme de la vie surnaturelle du chrétien a sa racine dans le Saint-Baptême. En fait, tout est contenu dans le baptême et la vie chrétienne consiste à développer ce qui a été donné dans l'âme du tout-petit quand c'est un tout-petit qui se fait baptiser. Ce qui répond d'une certaine façon à la question que se posent quelquefois les gens, est-ce qu'il faut baptiser un tout-petit ? Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre qu'il soit plus grand et qu'il se rende compte ? Non, on reçoit tout. Donc après, on a la vie pour en vivre et pour essayer de comprendre ce qu'on a reçu, mais il y a un changement considérable qui ne se mesure pas à ce que nous en comprenons, mais qui se mesure à la grandeur du don qui nous est fait. Donc, oui, il faut baptiser le plus tôt possible. Le curé d'Ars a été baptisé le jour de sa naissance, et je lisais ce matin que le pape Benoît XVI a été baptisé 4 heures après sa naissance. Voilà, il n'y a pas de raison d'attendre. Plus tôt on est baptisé, plus on a des chances d'être pape. Alors, vous avez noté dans l'énumération que je viens de donner qu'il n'est pas question des vertus cardinales, mais il était question des vertus morales. Alors, le Père Tancret, dans le livre que je vous ai plusieurs fois cité, donne la raison Quand il réfléchit au nombre des vertus morales, il écrit ceci. Les vertus morales, quand on les considère dans leurs diverses ramifications, sont très nombreuses, mais elles se ramènent toutes aux quatre vertus cardinales, ainsi appelées du mot cardines, gon, parce qu'elles sont pour ainsi dire les quatre gons sur lesquels s'appuient toutes les autres. Et donc, les quatre vertus cardinales étaient incluses dans les vertus morales. Dans la vie de l'esprit, il n'y a pas que les sept dons du Saint-Esprit. Il y a un foisonnement, une surabondance de dons. Il est par exemple question dans l'Écriture des fruits de l'esprit, dont nous n'allons pas parler, qui sont mentionnés en Galates 5, 22. Il y en a neuf. Charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Et quand le catéchisme de l'Église catholique donne la liste, je ne sais pas où il l'a trouvée, mais abondance de bien ne nuit pas, il y a 12 fruits. Donc sur les 9 qui sont donnés par l'Épître aux Galates, ils en ont rajouté 3. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les charismes, dont saint Paul parle au chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens. Certains peuvent être dotés de façon tout à fait gratuite d'un charisme dont les charismes peuvent être très variés, qui est quelque chose que le Seigneur donne à un en particulier pour que ce soit mis au service de tous. Donc vous avez les sept dons dont nous allons parler, les fruits de l'esprit, les charismes. Voilà, ça ne se limite pas aux dons. Et en fait, on s'aperçoit que depuis 5 minutes où je vous ai résumé ce qui a été dit, on tourne toujours autour de la définition de Dieu. Dieu est amour, et l'amour se donne. Et Dieu a été très inventif pour trouver des tas de moyens de nous venir en aide. Alors, je vous donne maintenant le plan qui sera vite fait. Il y a 7 dons, il y a donc 8 parties. La première, je vais faire quelques remarques générales sur justement ces 7 dons, et ensuite je les prendrai les uns après les autres. Premièrement, l'esprit aux 7 dons. Jean-Marie Vianney est un fils de paysan. Jean-Marie Vianney, c'est le futur curé d'Ars. Il a les pieds sur terre, il a travaillé les champs, il a une intelligence très imaginative pour trouver des images pour nous faire comprendre les mystères de Dieu. Et quand il parle de l'Esprit Saint, il dit « L'Esprit Saint, il est comme le jardinier qui travaille nos âmes. » Et j'aime bien cette idée de jardinier, parce qu'un jardinier, ça s'occupe du jardin de tas de façons différentes. Ça plante, ça désherbe, ça coupe pour que ça pousse mieux, ça protège avec un grillage. Voilà, il y a des tas de soins différents qui dénotent une abondance de façons de s'occuper des plantes. Eh bien, l'Esprit Saint, il a une abondance de façons de s'occuper de nos âmes. Et il va les travailler de tas de façons différentes, l'une n'excluant pas l'autre. L'idée des 7 dons différents renforce cette impression que les domaines d'action de l'esprit sont multiples. D'où vient ce nombre 7? Il vient d'un passage du prophète Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 3. Il parle du Messie à venir. Il parle d'un roi qui sera juste. Et il décrit les qualités de ce roi, fils rejeton de la souche de Jessé. Et donc on devinera qu'il s'agit du Christ. Donc le premier concerné par les dons, c'est le Christ. Je vous lis le passage. Un rejeton sort de la souche de Jessé, un surgeon pousse de ses racines, sur lui repose l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Yahvé, il respire la crainte de Yahvé. Donc, premier point, le premier bénéficiaire des dons, c'est le Christ. Et parler des dons de l'esprit, n'est-ce pas une autre façon de nous mettre à l'école du cœur de Jésus? Je vous avais dit, je crois, la dernière fois, que ce n'est pas parce qu'on faisait un entretien sur l'esprit qu'on est éloigné des deux autres. Quand l'un est présent, les deux autres personnes sont présentes. L'esprit, il est envoyé par le Père et le Fils. Et Jésus dit, à propos de son cœur, « De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Donc, pour mieux recevoir l'esprit et le lui laisser prendre toute la place dans notre cœur, il faut être au pied de Jésus. J'allais dire au pied de son cœur, il vaut mieux même être dans son cœur, puisqu'il a laissé son cœur s'ouvrir pour que nous puissions y rentrer. Deuxième remarque, si nous reprenons l'énumération du prophète Isaïe, on s'aperçoit qu'il n'y a pas sept dons, mais six. Le deuxième ayant été répété deux fois, esprit de science et de crainte de Yahvé, il respire la crainte de Yahvé. Alors, d'où vient le chiffre 7? De la traduction grecque, les septante, et de la traduction latine, la vulgate, qui a traduit le sixième par la piété. Donc le sixième c'est la piété, le septième c'est la crainte de Dieu. Et un prêtre, le père Jean-Marc Beau, qui est prêtre dans le diocèse des Yvelines, qui a écrit un petit livre sur l'Esprit Saint, il dit, il ne faut peut-être pas trop s'attacher à la symbolique du chiffre 7. Bien sûr qu'on est content de retrouver cette symbolique du chiffre 7, mais il ne faudrait pas donner l'impression que il travaille dans ses sept dons et qu'il ne fait rien à côté. Il faut plutôt voir dans cette symbolique du chiffre 7, qui signifie un peu la perfection, une abondance. Il travaille dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine de notre vie où l'esprit n'est pas à intervenir et ne puisse pas intervenir pour nous aider. Ce qui est certain, c'est qu'en nous donnant l'Esprit Saint, le Père et le Fils nous élèvent du naturel au surnaturel. Voilà, si c'est quelque chose qui n'est pas forcément très difficile à comprendre, mais qui est ensuite peut-être plus difficile à mettre en application dans notre vie, c'est-à-dire que nous n'avons pas une couche de naturel et pour ceux qui seraient baptisés une couche de surnaturel. L'Écriture dit « comme la rosée qui tombe du ciel et qui pénètre la terre ». Donc la grâce, elle est faite pas pour rester en surface, mais pour nous imprégner, pour imprégner notre quotidien. Ce qui fait que si nous laissons la grâce agir, on ne peut plus distinguer dans notre vie ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. J'allais dire, on agit naturellement de façon surnaturelle. Et quand on a parlé, par exemple, de la vertu de charité, nous sommes tous capables d'avoir des sympathies et aussi des antipathies. Ça, c'est la nature. Et ce qui est surnaturel, c'est que Dieu nous donne d'aimer chacun, même celui pour lequel je n'ai pas beaucoup de sympathie naturelle, de l'aimer d'une charité surnaturelle. La charité est d'ailleurs forcément que surnaturelle. C'est l'amour qu'il y a dans le cœur de Dieu, qui lui est universel, et qu'il met dans mon cœur, ce qui fait que la personne qui m'est antipathique, je ne vais pas forcément avoir plaisir à dîner tous les soirs avec elle, mais je souhaite pour elle le meilleur, c'est-à-dire qu'il reçoive le Christ, qu'il reçoive le salut, puisque le Christ est venu pour sauver tous les hommes, y compris celui pour lequel je n'ai pas beaucoup de sympathie, et dans lequel je dois voir le frère de Jésus-Christ et le Fils du Père. Donc l'idée, c'est que la vie divine vienne vivre aussi en nous, que notre âme soit le lieu d'épanouissement de la vie divine, et que si on laisse Dieu vivre en nous, eh bien on comprend par exemple l'évangile d'aujourd'hui, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et nous savons bien que nous ne sommes rien, et surtout pas la lumière du monde, puisque nous sommes comme les autres. Mais dans la mesure où le Christ, qui est la lumière du monde, vit en nous, on est transparent à la vie trinitaire en nous, alors, par celui qui nous habite, qui est la Trinité, on est lumière du monde et celle de la terre. Voilà, ça c'est... Le don de l'Esprit nous rend capables d'accomplir des actes que nous ne serions pas capables d'accomplir tout seuls. C'est par exemple, quand Jésus dit à la femme pécheresse, la femme adultère, « Va et ne pêche plus », c'est ce que le prêtre devrait nous dire à chaque fois qu'on va se confesser. « Va et ne pêche plus ». Je sais que tu es faible, mais la grâce du sacrement vient de t'être donnée, qui n'est pas simplement une grâce de guérison, qui est une grâce de force. Les sept dons du Saint-Esprit rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines, explique le catéchisme. Je vais vous relire un paragraphe du père Tancré dans son précis de théologie ascétique et mystique. Vous savez, c'est ce prêtre qui vraiment donne tous les détails. Peut-être on ne comprend pas tout, mais quand on voit le sens, ça clarifie. Les trois personnes divines habitent le sanctuaire de notre âme, se plaisent à l'enrichir de dons surnaturels et nous communiquent une vie semblable à la leur, qui s'appelle la vie de la grâce, ou vie déiforme, qui prend la forme divine. Or, dans toute vie, il y a un triple élément, un principe vital, qui est pour ainsi dire la source de la vie, des facultés qui permettent de produire des actes vitaux, et enfin des actes qui en sont l'épanouissement et contribuent à son accroissement. Dans l'ordre surnaturel, Dieu vivant en nous produit en nos âmes ces trois éléments. Il nous communique d'abord la grâce habituelle, qui joue en nous le rôle de principe vital surnaturel, divinise pour ainsi dire la substance même de notre âme et la rend apte, quoique d'une manière éloignée, à la vision béatifique et aux actes qui la préparent. Ça, c'est le baptême. De cette grâce découlent des vertus infuses et les dons du Saint-Esprit qui perfectionnent nos facultés et donnent le pouvoir immédiat de faire des actes déiformes, surnaturels et méritoires. Si vous voulez, de par notre péché, de par le péché originel qui marque notre âme, nous sommes dans deux mondes séparés entre Dieu et nous. À partir du moment où par le baptême il vient vivre en nous, nous sommes, la distance est abolie et nous sommes à nouveau reconfigurés pour la vie divine. Mais nous restons affaiblis comme conséquence du péché. Nous avons une nature humaine, même après le baptême, qui est affaiblie. Donc il va mettre des espèces de tuteurs pour renforcer et nous rendre capables de poser des actes vertueux. Ce sont les vertus infuses et les sept dons du Saint-Esprit. Troisièmement, pour mettre en branle ces facultés, il nous accorde des grâces actuelles qui illuminent notre intelligence, fortifient notre volonté, nous aident à agir surnaturellement et à augmenter ainsi le capital de grâce habituel qui nous est départi. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'ai des bonnes intentions, si je ne les mets pas en pratique, ça ne sert à rien. J'ai l'intention de, et si je ne le fais pas, ça ne sert à rien. Donc, j'ai une aspiration et une capacité à les faire, et dans un troisième temps, il faut que je pose ces actes. Alors, dans quel ordre je vais les traiter? Soit je pouvais prendre l'ordre tel qu'il est donné par le prophète Isaïe. C'est l'ordre qui a suivi le pape Jean-Paul II quand, il y a des années, il a fait toute une série d'audiences sur les dons du Saint-Esprit. Et c'est l'ordre qu'a suivi le pape François quand plus récemment, en 2014, il a fait lui aussi une série d'audiences du mercredi sur les dons du Saint-Esprit. Et puis, il y a une autre façon de faire qui part d'un verset du psaume, d'un psaume qui dit « La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse ». Donc, dans l'ordre, vous avez en premier la sagesse et en dernier la crainte. Mais le psaume dit « La crainte, c'est le commencement de la sagesse ». Donc, pour accéder jusqu'en haut, il faut partir du bas, qui est la crainte. Et c'est l'ordre qu'a suivi Don Prosper Guéranger, ancien père abbé de Solesmes, qui a réformé l'abbaye de Solesmes il y a longtemps, qui était un grand père abbé. Ce petit fascicule est un classique, il a été réédité plusieurs fois. Et finalement, parce que moi je m'y suis senti plus à l'aise, parce que je trouve qu'il y a une certaine logique, c'est cet ordre-là que je vais adopter. Voilà, qui nous permet de partir du bas de notre vie concrète pour nous élever. Deuxièmement, alors c'est le premier don que je vais traiter, le don de crainte. On est toujours surpris qu'un don du Saint-Esprit puisse s'appeler justement la crainte de Dieu. Quand on voit le nombre de fois où Jésus, dans l'Évangile, recommande de ne pas avoir peur. À Zacharie, à la Vierge Marie, devant la tempête apaisée, n'ayez pas peur, c'est moi. Quand à la fin de son ministère, il prévient les apôtres, vous aurez beaucoup à souffrir, mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Voilà. Jésus nous dit de ne pas avoir peur. Et on a aussi dans saint Jean, dans sa première lettre, cette phrase « L'amour parfait bannit la crainte ». Et nous sommes la religion de l'amour du cœur de Dieu qui se déverse en nous. Donc cette crainte, pourquoi en parler et pourquoi en faire précisément l'un des sept dons? Il y a une crainte dont il faut être délivré parce qu'elle est mauvaise. C'est celle dont Adam et Ève nous ont montré l'exemple aussitôt après leur désobéissance. Quand Dieu vient à leur rencontre, comme il l'a fait habituellement pour montrer cette amitié, Adam s'est caché. Dieu l'a cherché. Adam, où es-tu? La réponse, j'ai eu peur et je me suis caché. J'ai eu peur de ta réaction. Adam n'a plus vu Dieu comme le Père, comme l'ami, comme le bienveillant, mais comme celui qui allait se venger, qui allait punir, et il faut que je me préserve de cette punition. C'est pas Dieu qui a changé, c'est évidemment la façon dont Adam appréhende Dieu, et qui fait que maintenant il a peur de paraître devant lui. De cette peur, il faut être délivré. Nous ne sommes pas une religion d'esclaves qui a peur, dit saint Paul, nous sommes une religion de fils. De cette peur initiale de Dieu découle un certain nombre d'autres peurs dont il faut être délivré, qui sont des conséquences du péché, parce que le péché introduit un désordre. Donc je n'appréhende plus les réalités comme je devrais les appréhender. La première peur qui en découle aussitôt, c'est la peur de la mort, qui n'existait pas. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Si Adam et Ève n'avaient pas mangé du fruit défendu, nous ne connaîtrions pas la mort telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui est le contraire de l'unité de Dieu, qui est une séparation du corps et de l'âme, qui est un acte violent et qui provoque la tristesse de la disparition. Mais la mort est un acte violent qui n'est pas voulu par Dieu, mais qui est introduite comme conséquence, et nous avons donc peur de la mort. Nous avons peur de souffrir, ce qui ne serait pas arrivé parce qu'on n'aurait pas souffert si on n'avait pas péché. Nous avons peur de perdre des biens, parce que nous avons un attachement désordonné au bien, à certains biens. En tout cas, certaines personnes ont un attachement désordonné. C'est finalement celui qui ne sait pas aimer qui a peur. et celui qui ne sait pas se laisser aimer. Et de cette peur, il faut qu'on soit délivré. Donc le don de l'esprit, ce n'est pas cette crainte-là. Jean-Paul II, de quelle crainte s'agit-il ? Certainement pas de cette crainte de Dieu qui pousse à éviter de penser à lui. Non, de quelle crainte s'agit-il quand on parle du don d'esprit, pardon ? Certainement pas de cette crainte de Dieu qui pousse à éviter de penser à lui ou de se souvenir de lui comme de quelque chose ou de quelqu'un qui dérange et inquiète. J'ai peur que Dieu intervienne dans ma vie. Voilà. De ça, il faut être libéré. J'ouvre une petite parenthèse. Je vais beaucoup vous citer les trois, Jean-Paul II, François Ier et Don Prosper Guéranger. Je ne vous dirai pas à chaque fois qui je cite parce que ce serait trop laborieux pour vous. Mais, dans le fond, heureusement, ils disent la même chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment chacun a un peu son style. Par exemple, comment, je pense, on reconnaît un certain nombre de fois quand c'est le pape François qui parle. Au contraire, le véritable amour exige la crainte de Dieu. Celui qui aime, en effet, vit dans la crainte de perdre ou seulement de s'éloigner de celui qu'il aime. Et si je sais que mon péché peut m'éloigner un tant soit peu de Dieu, alors je vis dans la crainte non pas de Dieu, mais j'allais dire de moi-même et de ma faiblesse, de commettre un péché qui pourrait m'éloigner de Dieu. Et si mon amour est suffisamment délicat pour ne pas supporter le moindre éloignement, alors il y a une question qui ne doit plus se poser, qu'on nous pose quelquefois comme à nous prêtres. Mon père, est-ce que c'est un péché mortel ou est-ce que c'est un péché véniel ? Et cette question ne devrait plus se poser. Parce que si j'aime vraiment, je ne peux même pas me satisfaire de petits péchés. Je dois lutter même contre les petits péchés. La véritable crainte de Dieu devient ainsi la source des sentiments les plus délicats. Combien de fois je dois me confesser ? L'Église demande une fois par an. Non, l'Église demande qu'on fasse ses Pâques. C'est-à-dire qu'on communie au moins une fois par an, et pour communier, qu'on se soit confessé. Donc il faut se confesser une fois par an. Mais si c'est très légaliste. Et si je vis avec cette idée-là, je ne suis plus dans la délicatesse de cœur qui fait que j'ai besoin d'aller demander pardon, de me laisser embrasser, de me blottir dans ses bras, de me laisser renouveler par sa grâce. C'est cela que l'Esprit Saint assume et élève avec le don de la crainte de Dieu. Il n'exclut certes pas l'anxiété qui naît de la conscience des fautes commises et de la perspective du châtiment divin, mais l'adoucit par la foi dans la miséricorde divine et par la certitude de la sollicitude paternelle de Dieu qui veut le salut éternel de chacun. Et je dirais quand même, c'est là qu'on dit l'amour parfait bannit la crainte, plus j'aimerai, moins la crainte de l'enfer sera le motif qui me fera agir. Plus j'aimerai Dieu, plus je souhaiterai lui faire plaisir, et ça n'est pas la peur des flammes qui vont me lécher les fesses qui me pousse à avancer, c'est parce que Dieu m'attend devant que je suis poussé à avancer. C'est un don qui nous remplit d'un profond respect pour Dieu et nous dispose à éviter vivement et promptement le péché. Il ne consiste ni dans la crainte servile, ni dans la crainte filiale. La crainte filiale, c'est à la limite celle du fils aîné, dans la parabole du fils prodigue. J'ai toujours été avec toi, mais j'ai toujours été dans un rapport d'obéissance stricte. Pour avoir un agneau pour manger avec mes amis, il aurait fallu que je te le demande. Et il n'a pas compris qu'il avait qu'à se servir, parce que tout ce qui est à moi est à toi. Voilà. Crainte filiale. Dans un certain effroi qui nous tient distance de Dieu par respect pour sa majesté. Quand, dans la barque de la tempête, Pierre dit à Jésus « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur », c'est par rapport à son péché qu'il a peur de s'approcher, qu'il ne veut pas que Dieu s'approche. Tandis que la crainte face à la majesté, c'est « Seigneur, je ne suis pas digne que tu t'approches de moi. J'ai trop conscience de la distance qui nous sépare. J'ai trop conscience de, que c'est toi qui vas faire la démarche vers moi. » Mais après, le véritable amour, que ta volonté soit faite, puisque ta joie c'est de donner, ma joie ça doit être de recevoir. Te faire plaisir consiste à recevoir ce que tu me donnes. Le don de crainte est un don de l'esprit qui nous rappelle combien nous sommes petits devant Dieu et devant son amour, et que notre bien se trouve dans l'abandon entre ses mains avec humilité, respect et confiance. C'est cela la crainte de Dieu, l'abandon dans la bonté de notre Père qui nous aime tellement. L'Esprit Saint nous aide à nous sentir tels que nous sommes, c'est-à-dire petits, dans cette attitude si souvent recommandée par Jésus dans l'Évangile, de celui qui dépose toutes ses préoccupations et ses attentes en Dieu et qui se sent enveloppé et soutenu par sa chaleur et sa protection. En ce sens, nous comprenons bien que la crainte de Dieu vient prendre en nous la forme de la docilité, de la reconnaissance, de la louange, comblant notre cœur d'espérance. Ça, c'est du pape François. La crainte de Dieu garde l'homme dans l'humilité. Je ne développe pas, mais ce qui est intéressant quand on lit les trois en parallèle, c'est que finalement, ils disent la même chose, ils insistent pas tout à fait exactement sur les mêmes points, donc ils sont un peu complémentaires, mais sur les grandes lignes, ils disent la même chose. Une fois de plus, c'est réconfortant. Le don de crainte va également perfectionner la vertu cardinale de tempérance. Par amour pour toi, j'évite les excès. Si nous n'avons pas cette crainte révérentielle devant la majesté divine, le danger nous guette. Et je trouve intéressant ce danger que dénonce Don Guéranger d'une trop grande familiarité. Et on sent bien, c'est aussi un peu le même problème d'éducation dans une famille. Je trouve, vous allez me dire, je suis mal placé pour en parler. Quel rapport faut-il établir entre des parents et des enfants? Est-ce que c'est le rapport d'une distance parce que l'autorité, si je veux être respecté, il faut que j'établisse une certaine distance? Est-ce que des enfants peuvent être familiers avec leurs parents? Moi, je pense que oui. À condition que cette familiarité ne veut pas dire irrespect. Les parents restent et resteront toujours les parents et nous les enfants. Même quand je suis adulte, honore ton père et ta mère. Donc il faut en même temps cette grande tendresse. C'est Sainte Thérèse de Lisieux qui dit, quand elle voit son père penché sur son berceau, qui dira plus tard, combien Dieu doit m'aimer puisque déjà mon père m'aime autant. Donc il y a cette grande tendresse qui n'est pas réservée que à la mère, mais aussi au père. Vis-à-vis des enfants, le respect et en même temps cette familiarité qui est celle du cœur, mais qui n'est pas un manque de respect. La familiarité avec Dieu tient souvent la place de cette disposition fondamentale de la vie chrétienne, et dès lors tout progrès s'arrête. L'illusion s'introduit dans l'âme, et les sacrements qui, au moment d'un retour à Dieu, avaient opéré avec tant de puissance, deviennent à peu près stériles. C'est que le don de crainte a été étouffé sous la vaine complaisance de l'âme en elle-même. L'humilité s'est éteinte, un orgueil secret et universel est venu paralyser les mouvements de cette âme. Elle arrive sans s'en douter à ne plus connaître Dieu, par cela même qu'elle ne tremble plus devant lui. Alors vous voyez en quel sens c'est dit « trembler ». Le cardinal Ratzinger a développé la même idée dans un de ses livres. Le manque de crainte de Dieu est le début de toute folie. Là où ne règne plus la crainte de Dieu, qui a sa juste place au sein de l'amour de Dieu, l'homme perd le sens de la mesure. La crainte des hommes prend en lui le pouvoir et le conduit à l'idolâtrie de l'apparence. La porte est alors grande ouverte à toute espèce de folie. Je n'ai peut-être pas le temps de raconter l'histoire de Jean, futur Saint Jean de la Croix. Quand il était petit, il joue avec d'autres enfants au bord d'une mare à lancer un bâton le plus loin possible. Ayant pris de l'élan, il a lancé le bâton, il est tombé dans la mare qui était très boueuse. Il commence à paniquer, plus il bouge, plus il s'enfonce. Et les autres enfants sont tétanisés. Il appelle au secours, mais personne ne vient. Jusqu'au moment où, très enfoncé dans la boue, une femme très belle apparaît et lui tend la main. Il sort la main et à un moment il se dit « C'est pas possible, moi je suis tout sale, tout boueux, cette femme est resplendissante, elle est toute pure, je ne peux pas, moi avec ma main boueuse, lui mettre ma main dans la sienne. Je ne peux pas courir le risque de la salir. » Alors, finalement, on a compris que cette femme c'était la Sainte Vierge, ce Saint Jean c'est le futur Saint Jean de la Croix et il a été sauvé par quelqu'un qui est passé. Cette crainte, il n'avait aucune chance de salir la Vierge. La Vierge, elle est dans notre monde, j'allais dire jusqu'au cou, sans aucun risque d'être salie par notre péché, mais pour essayer de nous en sortir. Donc il comprendra plus tard qu'au contraire, c'est en mettant bien notre main dans celle de la Vierge qu'elle nous aide à nous en sortir. Mais la crainte de Dieu, c'est un peu ça. C'est risquer d'abîmer ce qui est entre lui et moi. Troisièmement, le don de piété. Le pape François précise immédiatement ce qu'il n'est pas. Il faut tout de suite préciser que ce don de piété ne s'identifie pas avec le fait d'avoir compassion de quelqu'un, d'avoir pitié de son prochain, évidemment. Ce deuxième don est immédiatement lié au premier. Il nous remplit d'affection filiale envers Dieu et nous le fait honorer comme un père. La vertu de religion fait l'adorateur qui respecte. Je reconnais que Dieu existe, je le respecte et je l'adore. Tandis que le don de piété fait le fils qui respecte et qui aime. Et qui respecte parce qu'il aime. Ce don place l'homme en vérité face à Dieu, un enfant sous le regard plein de bonté de son Père qu'il aime infiniment. L'esprit filial, c'est ce qui caractérise de façon parfaite Jésus devant son Père. L'Esprit Saint produit donc en l'homme le don de piété en lui inspirant un retour filial vers son Créateur. Retour filial, ça ne veut pas dire, ce n'est pas simplement je reconnais que Dieu est créateur, je reconnais qu'il est père. Cette disposition rend l'âme sensible à tout ce qui touche l'honneur de Dieu. L'âme initiée par le don de piété désire constamment la gloire de Dieu. Et elle voudrait amener tous les hommes à ses pieds et les outrages qu'il reçoit lui sont particulièrement sensibles. Du pape François. Il désigne notre appartenance à Dieu et notre lien profond avec lui, un lien qui donne sens à toute notre vie et qui nous garde ferme en communion avec lui, même dans les moments plus difficiles et les moments d'épreuve. Ce lien avec le Seigneur ne doit pas être compris comme un devoir ou quelque chose d'imposé, c'est un lien qui vient du dedans. Il s'agit d'une relation vécue avec le cœur, c'est notre amitié avec Dieu qui nous est donnée par Jésus. Une amitié qui change notre vie et remplit d'enthousiasme, de joie. C'est pourquoi le don de piété suscite avant tout en nous la gratitude et la louange. Être enfant du Père, c'est être frère ou sœur des autres hommes. Et donc, le don de piété, ce n'est pas simplement la dimension verticale, moi sous le regard de Dieu, c'est nous sous le regard de Dieu. C'est-à-dire, si je suis fils du Père, mon voisin ou ma voisine est aussi fils ou fille du Père, et donc mon frère ou ma sœur. La tendresse comme attitude sincèrement filiale envers Dieu s'exprime par la prière. Et il est significatif que lorsque Jésus nous enseigne à prier, il nous donne une prière, vous, quand vous prierez, vous direz « Notre Père ». C'est-à-dire, vous êtes chacun personnellement ses enfants, mais c'est un père commun parce que celui qui le dit avec vous est votre frère. Enfant du Père et aussi enfant de l'Église. Le don de piété me fait aimer l'Église comme ma mère. La foi de celui qui reçoit ce don est simple et vive. Elle se tient amoureusement soumise à l'Église. Son affection n'est pas seulement pour les créatures couronnées au ciel, celles qui sont encore ici-bas tiennent une large place dans son cœur. Le don de piété lui fait trouver en elle Jésus lui-même. Sa bienveillance pour ses frères est universelle. Ce don aide l'homme à lutter contre un obstacle intérieur qui gêne son union à Dieu, c'est l'égoïsme. Jean-Paul II. L'Esprit guérit notre cœur de toute forme de dureté et l'ouvre à la tendresse envers Dieu et envers nos frères. En outre, le don de la piété éteint dans le cœur des foyers de tension et de division que sont l'amertume, la colère, l'impatience, et y alimente des sentiments de compréhension, de tolérance, de pardon. Ce don est donc à la racine de cette nouvelle communauté humaine qui se fonde sur la civilisation de l'amour. Du pape François. Il dénonce une attitude pieuse qui n'est pas le don de piété. Pourquoi est-ce que je dis non de pieuserie ? Parce que certains pensent qu'avoir de la piété, c'est fermer les yeux, faire une tête d'image pieuse, faire semblant d'être un saint. C'est bien du François. En piémontais, nous disons faire l'ingénu. Il y a un rapport très étroit entre le don de piété et la douceur. Le don de piété que nous donne l'Esprit Saint nous rend doux, nous rend tranquille, patient, en paix avec Dieu, au service des autres avec douceur. Comment ? Donc la piété, ça n'est pas le pharisien qui monte devant l'autel pour faire sa prière bien fidèlement. « Seigneur, je te rends grâce, je fais tout très bien. » Quatrièmement, le don de science. Donc nous abordons le troisième don. L'âme ayant, ça c'est donc érangé, quand c'est plus logique, quand les choses s'enchaînent, c'est plus donc érangé. L'âme ayant été détachée du mal par la crainte de Dieu et ouverte aux nobles affections par le don de piété, éprouve le besoin de savoir par quels moyens elle évitera ce qui fait l'objet de sa crainte et pourra aimer ce qu'elle doit aimer. L'Esprit Saint vient à son secours et lui apporte ce qu'elle désire en répandant en elle le don de science. Par ce don précieux, la vérité lui apparaît, elle connaît ce que Dieu demande et ce qu'il éprouve, ce qu'elle doit rechercher et ce qu'elle doit fuir. Le don de science nous fait estimer les créatures à leur juste valeur et les mettre à leur juste place. Peut-être qu'on avait dit, enfin je vous l'ai dit de toute façon au début, nous avons des amours désordonnés. Nous aimons trop telle chose, pas assez telle autre, pas dans le bon ordre. Et bien le don de science vient nous aider à remettre de l'ordre. Les choses, je suis un tout petit peu agacé, ça m'arrive. Quand, alors je veux froisser personne, mais je trouve que ça n'est pas l'ordre. Mère Teresa raconte un jour qu'elle voit dans la rue une femme pousser un landau. Et attendrie, elle s'approche parce qu'elle voit la dame qui pousse le landau faire des grands baisers, des grands sourires, des discours. Mère Teresa s'approche et dans le landau, il y avait un chien. Et donc, elle a été surprise. Je comprends très bien que des personnes seules ou pas seules soient attachées à des bêtes. Et si on a des animaux, il n'est absolument pas question d'en faire n'importe quoi. Il y a le respect dû aux animaux. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu désordonné. Alors après, c'est peut-être l'histoire de chaque personne et des situations de solitude, je ne nie pas ça. Mais de reporter toute son affection, peut-être parce qu'on n'a personne d'autre aussi qui vient nous voir, aimer un animal comme on aimerait une personne, me paraît un peu désordonné. Et le don de science, par exemple, nous permet de mettre chaque créature à sa place. Quand il a créé les animaux, il a vu que c'était bon. Quand il a créé l'homme et la femme, il a vu que c'était très bon. Ça me vient à l'esprit. Il nous fait percevoir non seulement la caducité et la vanité des créatures. La vanité, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de valeur. Ça veut dire qu'il ne faut pas que j'attende de chaque créature qu'elle comble mon désir, mes aspirations à l'infini. Je suis créé à l'image et à la ressemblance d'un Dieu qui est infini. Il y a une part en moi qui est infinie, qui aspire à l'infini et à l'éternité, qu'aucune créature ne peut satisfaire. Je peux avoir épousé le meilleur mari de la terre, la meilleure femme de la terre, avoir les meilleurs enfants, les aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup et encore plus. Ils ne pourront pas satisfaire ma soif d'éternité. Et en cela, il est vain d'attendre d'une créature qu'elle remplisse le rôle que seul Dieu peut remplir. Et le don de science ne me fait pas simplement comprendre la vanité d'aimer trop certaines choses, mais il me fait comprendre aussi pour quelles raisons ces créatures ne peuvent pas satisfaire. Pourquoi ces créatures ne peuvent pas me procurer finalement le bonheur infini auquel j'aspire. En donnant à l'homme de savoir la vraie valeur des créatures dans leur rapport avec le Créateur, le don de science lui permet de ne pas succomber à une tentation très répandue à notre époque. C'est Jean-Paul II. Nous savons que l'homme contemporain, justement en vertu du développement des sciences, est particulièrement exposé à la tentation de donner une interprétation naturaliste du monde, devant la richesse multiforme des choses, leur complexité, leur variété et leur beauté, il court le risque de les absolutiser et presque de les diviniser jusqu'à en faire le but suprême de sa vie. Ceci a particulièrement lieu lorsqu'il s'agit des richesses, du plaisir, du pouvoir que l'on peut justement tirer des choses matérielles. Ce sont les principales idoles devant lesquelles le monde s'incline trop souvent. C'est le don de science qui aide à évaluer correctement les choses dans leur dépendance essentielle du Créateur. La vie, le bien absolu, je ne sais pas. Ça dépend de quelle vie on parle. La vie de Dieu, oui, c'est le bien absolu. Il peut se faire que j'ai des raisons ou des valeurs, mais je n'aime pas toujours ce mot, que j'ai des raisons supérieures pour lesquelles j'accepte de perdre ma vie terrestre parce que je sais qu'il y a une vie après la vie terrestre qui est l'accomplissement de ma vie éternelle. Et qu'en acceptant de perdre ma vie terrestre aujourd'hui, je peux accroître ma capacité à recevoir la vie éternelle dans l'au-delà. C'est par exemple le martyr. Pour rester fidèle à Jésus-Christ et à ma foi, vous savez, c'est le vieillard Éléazar, je crois, dans l'Ancien Testament. C'est fantastique, ça. Il est très, très, très âgé. On veut lui faire manger des viandes impures. Je ne suis pas sûr, si on veut parler en catégorie, ces catégories-là, que ce soit un péché mortel, mais c'est interdit par la loi. Éléazar dit, moi je suis centenaire, j'ai vécu très vieux, je suis resté fidèle à Dieu jusqu'à aujourd'hui, vous ne pensez quand même pas que je vais renoncer à être fidèle à la loi pour prolonger ma vie de je ne sais pas combien, mais très peu. Écoute, on va faire un arrangement. On va te donner à manger des viandes qui seront des viandes que tu peux manger parce qu'elles seront pures. Donc tu ne commettras pas de péché, mais vous plaisantez. Vous ne croyez pas que je vais me prêter à cette mascarade de faire croire aux autres, pour les scandaliser, au risque de les scandaliser, que je mange une viande impure, même si moi je sais que ma vie ne vaut pas ce prix-là. Moi je trouve ça fantastique. Voilà. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Ce don de science éclaire aussi la foi. La foi qui nous a été infuse dans le baptême est la lumière de notre âme. Par le don de science, l'Esprit Saint fait produire à cette vertu des rayons assez vifs pour dissiper toutes nos ténèbres. Les doutes alors s'éclaircissent, l'erreur s'évanouit et la vérité apparaît dans tout son éclat. On voit chaque chose dans son véritable jour, qui est le jour de la foi. On découvre les déplorables erreurs qui ont cours dans le monde, qui séduisent un si grand nombre d'âmes et dont peut-être on a été soi-même longtemps la victime. Et il faut être reconnaissant à l'Église qui vit ce don de science et qui repère mieux que nous où sont les dangers, qu'est-ce qui va falsifier la foi, où est l'erreur qui nous met des barrières pour nous empêcher d'aller dans cette direction-là pour prendre celle-là. Et on vit dans une conception... Enfin, vous savez comment on avait surnommé le cardinal Ratzinger quand il était préfet de la doctrine pour la foi. On avait dit c'est le Panzer cardinal. Voilà, c'est niet, niet, niet. Mais c'est pas comme ça. C'est ils ont la lumière de l'Esprit Saint pour deviner les erreurs là où nous on les aurait pas vues et nous mettre en garde contre les erreurs là où on les voit pas. Et il faut bien savoir que s'il y a une erreur intellectuelle et qu'on prend un mauvais chemin, il y a forcément la vie qui va avec. C'est pas que ma tête qui est empoisonnée. Ce sera ma façon de vivre parce que si je dévie, voilà, je pars. Le don de science nous prémunit contre certains dangers. Illuminé par le don de science, l'homme découvre en même temps la distance infinie qui sépare les choses du Créateur, leurs limitations intrinsèques, le danger qu'elles peuvent constituer lorsqu'en péchant on en fait un mauvais usage. Le chrétien, au moyen de la lumière surnaturelle, échappe à tous les dangers, et s'il n'a pas l'expérience propre, il a l'expérience de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a l'expérience de l'Église. Le pape François précise ces dangers. En même temps, le don de science nous aide à ne pas tomber dans certains comportements excessifs et erronés. Le premier est le risque de se considérer comme propriétaire de la création. Le second comportement erroné réside dans la tentation de s'arrêter aux créatures, comme si elles pouvaient offrir la réponse à toutes nos attentes. Quand nous exploitons la création, nous détruisons le signe de l'amour de Dieu. Détruire la création, c'est dire à Dieu « cela ne me plaît pas » et « cela n'est pas bon ». Voilà le péché. Si nous détruisons la création nous détruira. Pape François. Par exemple, Saint François de Sales raconte... Un jeune prêtre qu'il venait d'ordonner, se retirant après la cérémonie, s'arrêta quelques instants à la porte de l'église, faisant tous les signes extérieurs d'un homme qui veut céder le passage à un personnage honorable et ne sortir qu'après lui. L'évêque, fort étonné, puisque le jeune prêtre était seul, fit diligence pour le rejoindre et lui demander la raison de sa conduite. Le jeune prêtre répondit « Depuis quelque temps, mon Dieu m'a fait la grâce de jouir de la vue de mon ange gardien. Avant que je fusse prêtre, ce saint ange marchait toujours devant moi. Mais aujourd'hui, il a voulu, par honneur pour mon caractère sacerdotal, me céder le pas, me disant qu'il est mon serviteur et celui de tous les prêtres. J'ai dû passer le premier. » Voilà. Articuler les réalités les unes par rapport aux autres. Il y a quelques années, la relique du curé d'Ars, le cœur, est allée à Rome et devait être reçue par Jean-Paul II, qui est mort. Donc, il a été reçu par Benoît XVI. Et l'évêque d'Ars et le recteur du sanctuaire sont allés là-bas avec le reliquaire et à un moment l'ont porté dans les appartements du pape. Alors, ils ont d'abord été reçus dans un salon et ensuite, il fallait porter le reliquaire qui était assez lourd et aller à la chapelle. Et le pape commence... de l'air de dire ben, « suivez-moi, je vais vous montrer le chemin parce que lui connaît et pas... » Et au moment de passer la porte en premier, il s'est arrêté, il a dit « non, pas le pape d'abord, le curé d'Ars. » Cinquièmement, le don de force. Le don de science nous a appris ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter pour être conformes au dessein de Jésus-Christ, notre divin chef. Il faut maintenant que l'Esprit établisse en nous un principe duquel nous puissions emprunter l'énergie qui devra nous soutenir dans la voie qu'il vient de nous montrer. Nous devons en effet compter sur des obstacles, et le grand nombre de ceux qui succombent suffit à nous convaincre du besoin que nous avons d'être aidés. Le secours que le divin esprit nous communique est le don de force. Il est hors de doute, ça c'est don Guéranger évidemment, il est hors de doute qu'ayant à lutter pendant cette vie contre le démon, le monde et nous-mêmes, il nous faut autre chose pour résister que la pusillanimité ou l'audace. Nous avons besoin d'un don qui modère en nous la peur, en même temps qu'il tempère la confiance que nous serions portés à mettre en nous-mêmes. C'est bien vu quand même, ça c'est des spirituels. L'homme ainsi modifié par le Saint-Esprit vaincra sûrement, car la grâce suppléera en lui à la faiblesse de la nature, en même temps qu'elle en corrigera la fougue. Le don de force est un don qui nous aide à accomplir des actes très difficiles de vertu. Il communique le courage d'affronter des dangers extraordinaires. Il se rapporte à la volonté. Ce qui serait exagération, présomption ou témérité sans le don de force est avec lui le bien et le juste, parce que l'Esprit Saint le veut et qu'il donne l'énergie de l'accomplir. L'objet du don de force, c'est tout obstacle qui agit sur notre volonté pour l'effrayer ou la fatiguer ou la détourner du bien. Par exemple, un effort pénible, les tentations persistantes, la sécheresse d'esprit, la lassitude occasionnée par les longues prières, l'ennui causé par les devoirs d'État, les calomnies, les persécutions, les menaces de mort, voilà. La perte de sa réputation si on dit telle chose, si on ne fait pas telle chose. Et cette force s'étend jusqu'à notre propre corps. J'accélère un peu. Concrètement, dans sa vie, le chrétien doit savoir résister à la tentation et supporter le mal et la souffrance. Il faut résister et supporter. Il faut faire un effort, mais quelquefois cet effort, il faut qu'il soit prolongé. La force nous est nécessaire, en particulier dans les circonstances où la peur pourrait nous paralyser. Et ça n'est pas que en certaines occasions qu'on a besoin de ce don de force, c'est en permanence qu'on doit vivre de ce don de force. Le pape François remarque, il ne faut pas penser que le don de force n'est nécessaire que dans certaines occasions ou situations particulières. Ce don doit constituer la note de fond de notre être chrétien dans l'ordinaire de notre vie quotidienne. Il arrive parfois qu'on rencontre des gens qui disent « Ah là, je me suis trouvé devant quelque chose que je ne savais pas faire, j'ai prié Dieu de m'aider à le faire. » Autrement dit, Dieu est un recours quand nous, on est démunis. Mais quand on pense pouvoir réussir à le faire par nos propres forces, alors on n'a pas besoin de Dieu. Et le pape nous dit « Mais c'est une erreur. » Même ce que je crois savoir faire parce que j'ai des dons particuliers, des dons humains, des dons naturels, je le ferai encore mieux et de façon plus affermie et plus juste avec le don de force. Par exemple, illustration de ce que permet de faire ce don de force. Vous savez que saint François d'Assise, était très très généreux, pas de problème. Il y avait juste un problème, c'est qu'il avait extrêmement peur des lépreux. Et que le lépreux qui marche sur la route fait tourner sa crécelle et on l'entend avant de le voir. Et quand on entend la crécelle du lépreux, on se met sur le bord de la route il passe, et comme ça, on se garde à distance. Et François se dit, c'est pas normal mon attitude. C'est pas normal que je n'ose pas m'approcher du lépreux, mais ça me dégoûte, mais j'ai peur, mais je vais être contaminé. Jusqu'au jour où, après avoir prié, il entend la crécelle, il voit le lépreux avancer sur le chemin, il reste au milieu du chemin, et quand le lépreux arrive à sa hauteur, François l'embrasse. Voilà. Vaincre cette répulsion qu'on peut comprendre, que peut-être rationnellement, en certaines circonstances, peut se justifier. Voilà. Je ne peux pas dire que j'aime mon prochain si je m'écarte de sa route. Sixièmement, le don de conseil. Le don de force, dont nous avons reconnu la nécessité dans l'œuvre de la sanctification du chrétien, ne suffirait pas pour assurer ce grand résultat si le divin esprit n'avait pris soin de l'unir à un autre don qui vient à la suite et prévient tout danger. Ce nouveau bienfait consiste dans le don de conseil. La force ne saurait être laissée à elle seule. Il lui faut un élément qui la dirige. Le don de science ne pourrait être cet élément parce que s'il éclaire l'âme sur sa fin et sur les règles générales de la conduite qu'elle doit tenir, il n'apporte pas une lumière suffisante sur les applications spéciales de la loi de Dieu et sur le gouvernement de la vie. Voilà, la science, c'est des principes très généraux. Et la mise en application, voilà, c'est comme quand il y a une loi qui est votée au Parlement, elle est votée, ensuite il faut les décrets d'application. Dans les diverses situations où nous pouvons être placés, dans les résolutions que nous pouvons avoir à prendre, il est nécessaire que nous entendions la voix de l'Esprit Saint, et c'est par le don de conseil que cette voix divine arrive jusqu'à nous. Même si je sais où aller, si je sais le but, il faut que je discerne par quel chemin y arriver. Et il peut y avoir deux chemins qui sont bons, mais un qui m'est plus propice à moi que l'autre. C'est elle qui nous dit, si nous voulons l'écouter, ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter, ce que nous devons dire et ce que nous devons taire, ce que nous pouvons conserver et ce à quoi nous devons renoncer. Par le don de conseil, l'Esprit Saint agit sur notre intelligence, de même qu'il agit sur notre volonté par le don de force. Vous voyez pourquoi j'ai voulu partir du bas ? Parce qu'en fait, ces dons s'articulent les uns sur les autres. Je vous rappelle peut-être la prière du cardinal Verdier, que vous connaissez peut-être, la prière à l'Esprit Saint, qui est, à mon avis, exactement la prière pour le don de conseil. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspirez-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, comment je dois agir et ce que je dois faire pour procurer votre gloire, d'abord la gloire de Dieu, le bien des âmes, les autres, et ma propre sanctification, Dieu, les autres et moi. Le don de conseil vient en aide dans les nombreuses délibérations que nous sommes obligés de faire à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut faire attention, il peut y avoir un résultat opposé au don de conseil, c'est-à-dire que je pèse tellement le pour et le contre que je n'arrive plus à prendre une décision. Et ça, c'est évidemment pas le don de conseil, ça me paralyse au lieu de me pousser à agir. Alors, j'ai demandé conseil, j'ai prié, j'ai analysé la situation, j'ai pris une décision. Il y a un moment, il faut que, sauf s'il apparaît évident qu'elle est mauvaise, il y a un moment, il faut que je me tienne à ma décision. Sinon, ça n'avance plus. Ce don de conseil prémunit contre la témérité. Témérité, c'est une trop grande audace, ne pas être capable d'estimer véritablement les dangers. J'ai un neveu, alors c'est d'actualité, sauf qu'il y a quelques années, il y a eu dans le sud de la France des inondations. Et il était en voiture, il a pensé qu'il pouvait traverser le pont, et il a commencé à s'avancer, et paf, la voiture a été balayée. Il s'est retrouvé coincé contre un arbre un peu plus loin, donc il a pu sortir. C'était la témérité. Ce don de conseil prémunit contre la témérité, la précipitation, l'insouciance. Quand on voit le nombre de tweets, ça m'amuse beaucoup de parler de tweets, qui sont envoyés, qui réagissent immédiatement à l'actualité, moi je suis effaré. Effaré parce que dans cette immédiateté, on n'a plus la distance, le temps nécessaire pour prendre conseil. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'on va se tromper, mais le conseil forcément demande quand même un peu de temps. Et aujourd'hui, pour être à la page, il faut qu'on soit en haut de la page. Et je trouve que ça nuit à une réflexion en je ne sais pas combien de caractères, 140, 200, je ne sais pas, 140, merci, on ne développe pas une pensée. Donc j'argumente rien, je réagis. Je ferme la parenthèse. Vous avez peut-être lu cette histoire racontée par le pape François. Je me souviens qu'une fois dans un sanctuaire, j'étais dans le confessionnal devant lequel se trouvait une longue queue. Il y avait aussi un jeune garçon à la mode, avec des boucles d'oreilles, des tatouages, toutes ces choses-là. Il est venu me dire ce qui lui arrivait. Il avait un gros problème, difficile. Et il m'a dit, j'ai raconté tout cela à ma mère, et ma mère m'a dit, va voir la Vierge et elle te dira ce que tu dois faire. Voilà une femme qui avait le don de conseil. Le don de conseil, c'est pas forcément, j'ai réponse à toutes vos questions, je vais vous dire moi ce que vous devez faire. C'est aussi être capable de conseiller auprès de qui il faut aller, qui sera plus compétent, plus sage, plus informé que moi. Voilà une femme qui avait le don de conseil. Elle ne savait pas comment sortir du problème de son fils, mais elle a indiqué la bonne route. Va voir la Vierge et elle te dira. Cela est le don de conseil. En effet, ce jeune homme m'a dit, j'ai regardé la Vierge et j'ai senti que je devais faire cela, cela et cela. Je n'ai pas dû parler, sa mère et le jeune garçon lui-même avaient tout dit. Cela est le don de conseil. Vous, maman, vous possédez ce don, demandez-le pour vos enfants. Le don de conseiller les enfants est un don de Dieu. Voilà, le conseil. Quand Jésus dit dans l'Évangile, on vous conduira devant les tribunaux, ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire, l'Esprit Saint parlera en vous. Pour moi, il est parfaitement illustré par Jeanne d'Arc. À son procès, devant des évêques, des théologiens qui ont fait des études, elle qui n'a appris son catéchisme que le pater, l'ave et le credo, et qui répond et qui remplit de confusion les théologiens et les évêques. Pas par sa science, mais parce que l'Esprit Saint lui conseille les réponses. Septièmement, le don d'intelligence. Donc c'est en fait le sixième don, vous avez compris ça. Ce sixième don de l'Esprit Saint fait entrer l'âme dans une voie supérieure à celle où elle s'est exercée jusqu'ici. Les cinq premiers dons tendent tous à l'action. La crainte de Dieu remet l'homme à sa place en l'humiliant. La pitié ouvre son cœur aux affections divines. La science lui fait discerner la voie du salut de la voie de la perdition. La force, l'arme pour le combat. Le conseil le dirige dans ses pensées, dans ses œuvres. Il peut donc agir maintenant et poursuivre sa route avec l'espoir d'arriver au terme. Mais la bonté du divin esprit lui réserve encore d'autres faveurs. Il a résolu de le faire jouir dès ce monde d'un avant-goût de la félicité qu'il lui réserve dans l'autre vie. Ce sera le moyen d'affermir sa marche, d'animer son courage et de récompenser ses efforts. La voie de la contemplation lui sera donc désormais ouverte et le divin esprit l'y introduira au moyen de l'intelligence. Alors, il ne faut pas avoir peur des mots. La contemplation, on s'imagine que c'est réservé aux moines qui fêtent leurs 40 ans de vœux. Pas avant. que c'est réservé à Marthe Robin. Non, la contemplation, c'est un don gratuit que Dieu peut faire à vous et à moi. Et ce n'est pas forcément après des années de prière ou des années de sacrifice. C'est une illumination surnaturelle qui me fait percevoir, goûter des choses divines, qui me fait entrer plus profondément dans la foi. Vous recevez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est le don d'intelligence. Un don qui fait clairement comprendre le sens de la parole de Dieu. Nous jugeons que le sens de la vérité révélée est celui-ci et non celui-là. Voilà, quand on parle du sensus fidei, le sens de la foi du peuple de Dieu, on dit il n'y a que le pape qui sait, qui est infaillible. Alors d'abord, il n'est pas infaillible à chaque fois qu'il ouvre la bouche, mais le peuple de Dieu qui ne pourrait pas forcément expliquer sent quelquefois que ça c'est juste et que ça c'est vrai et qu'il ne faut pas partir dans cette voie-là. Parce qu'il a la lumière de l'Esprit Saint. L'âme qui a reçu le don d'intelligence et avec lui la connaissance lumineuse des mystères les plus cachés, les croit avec plus d'assurance. Ce don est opposé à l'épaisseur et à la grossièreté de l'esprit qui s'arrête aux surfaces sans pénétrer le fond. Père, je te rends grâce ce que tu as caché aux sages et aux savants qui pourtant ont fait des études, qui sont intelligents, qui machin, machin, machin. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Pas par leurs études. Daniel Ange a écrit il y a des années un livre qui s'appelle « Ton enfant crie la vérité ». Ce sont des centaines de phrases d'enfants. Alors sur le corps de la page, vous avez la phrase de l'enfant. Et en marge, vous avez l'équivalent dit par un père de l'Église en plus compliqué. Voilà. Ces enfants-là, ils ont des lumières que sans doute peut-être ils ne perçoivent pas eux-mêmes, mais qui leur vient, Père, je te rends grâce, tu l'as révélé au tout petit. Donc, aussi pour cette raison-là, parce que ce n'est pas nous qui décidons, qui en faisons une question de connaissance intellectuelle humaine, il faut baptiser les petits-enfants. Le pape Jean-Paul II, c'est le don d'intelligence me permet d'interpréter comme il faut les événements, tels que Dieu les comprend et pourquoi Dieu les a permis. Je vous lis, en 1994, ça a été une année internationale pour la famille. Et le pape devait rencontrer des grands de ce monde pour parler de la famille. Et avant cette rencontre, quelque temps avant, il est tombé, il a dû se fracturer quelque chose, il est parti à l'hôpital, il a dû être opéré, donc ça a ralenti son rythme. Et il a réfléchi à ce qui venait d'arriver, qui humainement, c'est voilà, je fais mieux mon boulot si je peux marcher que si je ne peux pas marcher. Donc quel est le sens de cet événement? Et voilà ce qu'il dit, il a trouvé par ce don d'intelligence le sens surnaturel de cet événement qui humainement est un handicap. J'ai compris que je dois faire entrer l'Église dans ce troisième millénaire par la prière, par différentes initiatives, mais j'ai vu que cela ne suffirait pas. Il fallait l'y faire entrer avec la souffrance, avec l'attentat d'il y a 13 ans et avec ce nouveau sacrifice. Pourquoi maintenant? Pourquoi en cette année? Pourquoi en cette année internationale de la famille? Précisément parce que la famille est menacée, parce que la famille est agressée. Le pape doit être agressé, le pape doit souffrir, pour que chaque famille et le monde entier voient que c'est un évangile supérieur, dirais-je, l'évangile de la souffrance avec lequel il faut préparer l'avenir, le troisième millénaire des familles, de chaque famille et de toutes les familles. Je voulais ajouter ces réflexions lors de ma première rencontre avec vous, très chers Romains et pèlerins, à la fin de ce mois de Marie, parce que ce don de la souffrance, je le dois. Et j'en rends grâce à la Très Sainte Vierge. je comprends qu'il était important d'avoir cet argument face aux puissants de ce monde. Je dois à nouveau rencontrer ces puissants du monde et je dois parler. Avec quels arguments ? Il me reste cet argument de la souffrance. Et je voudrais leur dire, comprenez-le. Comprenez pourquoi le pape a de nouveau été à l'hôpital, de nouveau dans la souffrance. Comprenez-le, repensez-y. Voilà. Celui qui n'a pas le don d'intelligence, c'est du masochisme. On voit bien qu'il est un peu sénile, je ne vois pas l'intérêt de tout ça. Voilà. Il y a un mystère dans lequel le Christ, le premier, a été plongé, puisqu'il nous sauve par sa passion. L'amour a été jusqu'à supporter la souffrance. Huitièmement, le don de sagesse. Excusez-moi, ça va trop vite. Le septième, c'était le don d'intelligence. Oui, c'est le sixième don, mais c'est le septième point de mon exposé, le premier étant l'esprit aux sept dons. La seconde faveur qu'a destinée le divin esprit à l'âme qui lui est fidèle dans l'action est le don de sagesse, supérieur encore à celui d'intelligence. Il est lié cependant à ce dernier, en ce sens que l'objet montré dans l'intelligence est goûté et possédé dans le don de sagesse. L'intelligence est donc illumination et la sagesse est union. Or, l'union avec le souverain bien s'accomplit par la volonté, c'est-à-dire par l'amour qui réside dans la volonté. Une lumière divine qui nous fait goûter et contempler les mystères les plus élevés. Saint Albert le Grand, la sagesse est une lumière qui nous fait voir et goûter les choses divines. Avec le don de sagesse, on s'affectionne tellement à ce qui regarde le service de Dieu qu'on ne trouve point de contentement pareil au monde. Vous avez certains passages où le curé d'Ars parle de l'Eucharistie, qui est un mystère. Voilà, on croit autre chose que ce qu'on voit, donc ça ne parle pas du tout au sens. Je vois un rond blanc et je crois que c'est le Christ mort et ressuscité pour nous, le Fils de Dieu. Donc ça, je pose l'acte de foi. Et à certains moments, on a l'impression qu'il est au-delà de l'acte de foi, qu'il est à nouveau dans le domaine sensible, quand il parle des effets de la communion après avoir reçu l'hostie. Je sens tout mon corps baigné comme une chaleur. Que c'est bon, voilà. C'est exactement goûter comme est bon le Seigneur. Le don de la sagesse. La sagesse est précisément cela, dit le pape François, la grâce de pouvoir voir toutes choses avec les yeux de Dieu. C'est simplement cela, voir le monde, voir les situations, les conjonctures, les problèmes, tout avec les yeux de Dieu. Lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, l'Esprit agit comme s'il transfigurait notre cœur en lui faisant percevoir toute sa chaleur et son amour de prédilection. J'arrête. Peut-être que vous avez des questions. Le bon Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais la voie ordinaire, c'est, ça n'est pas de nous faire bénéficier des dons si on ne se met pas, nous, dans un mouvement de conversion, c'est-à-dire le désir de non seulement de vouloir quitter son péché, mais de vouloir être rempli de Dieu. Donc c'est bien la grâce de Dieu qui va nous mettre dans ce mouvement de conversion, mais on n'aura pas immédiatement, à mon avis, ces dons, tout de suite, avant d'avoir marché un peu sur ce chemin de la conversion. Sauf le bon larron. Pour nous, c'est juste, on a ce qu'on mérite en étant crucifié. mais en un instant, il voit tout dans la perspective, le ciel dans la perspective de Jésus qui nous ouvre le ciel. Oui, il y avait urgence, mais... Il y avait urgence, mais ce qui est urgence pour nous n'en est pas une pour le bon Dieu. Donc il aurait pu lui accorder un tout petit délai. Eh bien, il ne l'a pas fait. Mais je pense, donc c'est pour ça que je dis qu'il fait ce qu'il veut. Mais le chemin ordinaire, c'est quand même que par la grâce, on se convertisse et que sur ce chemin de la conversion, pour avancer encore plus loin, ses dons nous aident. Pour lui, non. Ah ben pas pour tous, sauf si le Seigneur vous a dit ce soir même tu seras avec moi dans le paradis, écoutez-le, mais pour les autres il ne l'a pas dit. Alors après, je ne sais pas très bien ce que veut dire ces mots, ce soir même. Je ne sais pas si le bon larron peut être au ciel avant que Jésus n'y soit. Mais en même temps, même quand il vient sur terre, Jésus ne cesse pas d'être présent auprès de son Père. D'autres questions ? Oui, madame. 11, 2, 3. Non, 1, 3. 11, 1, 3. Alors, ça, il est réédité peut-être même ici. Peut-être à la librairie, mais il vient d'être celui-là, il est de 2014. C'est la première édition est de 1950. 2005-2014, c'est au moins la troisième édition. Les dons du Saint-Esprit par Don Prosper Guéranger, abbé de Solesmes. Tenez, madame. Le deuxième, les sept dons de l'Esprit-Saint du pape François aux éditions de l'Emmanuel, ce sont des audiences du mercredi. Et le troisième, c'est les dons du Saint-Esprit de Jean-Paul II, édité dans la petite collection Les Petits Cahiers au Laurier. C'est l'édition de l'Opus Dei. À l'année prochaine. Il faut croire que Saint Paul dit que nous ne sommes pas tentés au-dessus de nos forces. C'est au-dessus de nos forces avec la grâce de Dieu. Mais que la grâce est toujours plus forte que la tentation. Et s'il y a un problème, il ne vient pas du côté de Dieu, mais de notre côté, parce qu'on ne s'est pas assez ouvert à la grâce. Vous, je ne sais pas, mais moi, peut-être, il m'est arrivé de faire une prière parce que je sais que c'est ça qu'il faut que je demande, mais je n'ai pas forcément envie que ça se réalise. Voilà, ça, c'est la prière de saint Augustin. Mon Dieu, rendez-moi chaste, mais pas tout de suite. Donc, il y a un combat dans notre cœur. Et je pose des gestes et je vais me confesser. Quand, dans son livre « Le nom de Dieu est miséricorde », quand le pape parle de la confession, c'est étonnant de voir jusqu'où il encourage à faire quelque chose pour cette personne qui déjà a fait une démarche. Vous ne regrettez pas, mais est-ce que vous regrettez de ne pas regretter ? Et donc il y a ce « je vais chercher la grâce ». Mais en même temps, sur ce point-là, je ne suis pas prêt à lâcher. Ça, ça m'en demande trop. Le pape dit il faut intégrer une dimension de sacrifice, mais Jésus l'a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc je veux bien faire une partie du chemin, mais pas toute la partie. Parce que j'ai peur encore de là où le Seigneur veut me conduire, ou le chemin par lequel il veut m'emmener. Et donc, va et ne pêche plus, c'est à l'intérieur de tout ce combat-là, c'est pas ponctuellement maintenant. C'est, je ne doute pas de la sincérité, de l'authenticité de ta démarche, mais est-ce que ta démarche, tu la pousses vraiment jusqu'au bout? Est-ce que tu vas... Par exemple, je dis souvent aux gens, voilà, vous allez dire votre acte de contrition, je prends la ferme résolution. Moi, je suppose que vous l'avez, au moins un minimum. Si on n'a pas du tout, ce n'est pas la peine de venir, et si je m'en rends compte, je ne vous donne pas l'absolution. Je prends la ferme résolution, mais vous connaissez votre faiblesse, puisque vous me dites en gros toujours la même chose, et que, avec le secours de votre Sainte Grâce. Donc, c'est avec le Seigneur qu'on va lutter. Mais le secours de la grâce, je la trouve dans la prière, je la trouve dans la messe, je la trouve peut-être dans une confession plus fréquente, je la trouve dans mes actes de charité. Donc si en même temps que je dis ça, je ne me mets pas à prier tous les jours, je vais à la messe 3 fois sur 4, mais pas... Eh bien, je ne suis pas complètement logique. Je ne suis pas complètement cohérent avec ma démarche. Alors c'est dans cette cohérence entière qu'on peut entendre « va et ne pêche plus ». Il est très intelligent, madame. Alors, je ne l'ai pas là, mais je suis tombé récemment sur une phrase du curé d'Ars qui m'enchante. Il dit, regardez comme Dieu est bon. Il sait à l'avance que vous retomberez, mais déjà il vous pardonne. Alors, non, mais il sait, il est très, très progressif. Il s'adapte. Attendez une seconde. Je ne suis pas sûr que Sainte Thérèse manquait de force. Non, mais la force, c'est pas forcément faire des sacrifices. Supporter cette vieille sœur qui râle tout le temps, qui agace tout le monde, il faut une force intérieure extraordinaire. Supporter la maladie dont elle a dit « si je n'avais pas eu la foi, je me serais peut-être suicidé » sans trop se plaindre, il faut une force intérieure. Mais ce qui est vrai... C'est que j'allais dire que la condition de tout, c'est l'humilité. Et le premier don, la crainte quand on part du bas, c'est celle qui nous met en vérité sous le regard de Dieu, c'est-à-dire dans l'humilité. Je suis une pauvre petite créature et je ne peux rien. Là, à partir de là, je peux construire. Mais la force, c'est pas proportionné au nombre de coups de fouet que je me donne tous les soirs. C'est, comme dit le pape, être patient avec celui qui m'aborde et qui m'énerve. Merci. Bien, je vous remercie beaucoup de votre patience, de votre fidélité.